Le Grand Dialogue.
Sigafoba.
Odewani wa makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumondi.
Chenni Beri.
Sigafoba. Le Grand Dialogue.
Les élèves ont repris le chemin de l'école ce matin. Alors, les enseignants et le gouvernement malien ont ainsi trouvé un consensus autour de 9 points de revendication sur les 10 que les enseignants revendiquaient. Alors, à la fin de la grève des enseignants, quelle va être la suite maintenant pour l'année scolaire? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Et nos invités sont au nombre de 3 personnes. Ousmane Al-Moudou, secrétaire général du syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités. Djougamadi Sissoko de la Fédération des parents d'élèves et Mohamed Ag Acharom, analyste. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, première question à vous, monsieur Ousmane Al-Moudou. Êtes-vous satisfait aujourd'hui?
Merci, monsieur Touré, de nous avoir invités à ce débat. Maintenant, la question, est-ce que nous sommes satisfaits? Un syndicaliste n'est jamais satisfait. On souhaitait avoir plus. On n'a pas eu ce qu'on cherchait. C'est ça aussi le syndicalisme. On cherche quelque chose. Et si on arrive à trouver quelque chose, on prend ça. Puis on se prépare pour le futur. Donc, on peut dire qu'on est comblé, mais on n'est pas totalement satisfait.
D'accord. Djougamadi Sissoko, oui. Parents d'élèves, êtes-vous content de la fin de cette grève?
Bon, moi, je remercie quand même le ciel. Bonjour d'abord à nos téléspectateurs, parce qu'on les remercie tous. Et à vous également, je vous adresse mes remerciements, parce que vous avez beaucoup fait. Et nous, nous sommes plus que comblés aujourd'hui, parce que pour un parent d'élève, savoir qu'il va avoir une année blanche n'est pas du tout son agrément. Alors donc, maintenant que nous sommes parvenus quand même à nous entendre, je crois que vraiment nous pouvons remercier le ciel et féliciter même les enseignants parce que nous les comprenons. Nous sommes parents d'élèves, c'est ce que nous leur disons depuis le départ. Nous sommes proches d'eux. Ils viennent de nous. Donc qu'ils soient comblés aujourd'hui aussi, c'est notre désir également.
D'accord. Je rappelle que nos tentatives pour compter en représentant du ministère de l'Éducation sur ce plateau sont restées vaines. Mohamed Ag Acharom, êtes-vous également satisfait, content de la fin de cette grève?
Bonjour et merci déjà de nous avoir associés à cette question qui concerne l'éducation. Satisfait, on ne peut qu'être satisfait, comme l'ont dit les deux précédents intervenants. Nous sommes tous parents d'élèves et dans la majorité des cas, compte tenu de la bourse du Malien, nous savons tous que la majorité des Maliens a ses enfants dans les systèmes publics qui est naturellement concerné par cette grève. Donc, on est naturellement satisfait de ne plus voir nos enfants assis à la maison à ne rien faire et ne pas risquer de perdre une année de leur cursus scolaire. Donc, je suis vraiment satisfait.
Une année blanche évitée ainsi, est-ce que c'est une bonne chose?
On peut dire que c'est une bonne chose. D'un côté, on peut aussi dire qu'à la limite, on bricole. Peut-être qu'on va aller plus en profondeur. Éviter l'année blanche juste pour dire qu'on n'a pas fait une année blanche, mais dans la tête des enfants, c'est une année blanche, puisque c'est une année où ils n'ont rien fait. Donc, ils vont passer en classe supérieure sans avoir le niveau de la classe supérieure. Et c'est, ça va naturellement avoir un impact sur leur avenir professionnel, puisqu'ils auront ensuite sauté une étape de leur éducation.
Ah, Ousmane Al-Moudou, la grève a pris fin. Est-ce que c'est du bricolage que vous allez faire, comme le pense Mohamed Ag Acharom?
Bon, en fait, d'abord, ce n'est pas nous. Nous sommes des syndicats, nous sommes des enseignants. Nous sommes à la disposition du département de l'éducation. Et la suite de l'année scolaire, comment est-ce que l'année sera aménagée? C'est le département qui va faire ça. Maintenant, c'est évident ce que l'expert vient de dire, que c'est une réalité. Quelles qu'en soient les dispositions qui seront prises, aujourd'hui, on va On va bricoler. Moi, je mets ça entre guillemets quand même. Parce que dès lors qu'un enfant perd un mois, deux mois de cours, vous savez, en matière de pédagogie, perdre un mois de cours, ce n'est pas facile à rattraper. Et je pense que le temps qui nous reste pour le reste de l'année, difficilement on peut rattraper les 3-4 mois perdus.
Ouais.
Donc forcément, ça sera un bricolage. Mais un bricolage qui aura quand même l'avantage quand même d'éviter le pire, parce que le pire, quand même, ça, c'est l'année blanche. Donc, je pense que On va, dès lors que la grève a pris fin, on a pu s'entendre avec le gouvernement sur un certain nombre de points. Chacun va mettre du sien pour qu'on puisse sauver l'essentiel. Sauver l'essentiel, c'est que, en tout cas, nous avons invité nos militants à reprendre le travail, à travailler sérieusement, parce que d'abord, ce sont nos enfants. Il ne faut pas que les gens oublient ça. Nous sommes des syndicats, nous sommes des enseignants, mais nous sommes aussi des parents de l'école.
D'accord, je vais y revenir. Voilà. Oui. Est-ce qu'un bricolage vaut mieux qu'une année blanche?
Bon, moi, je préfère un bricolage que pas du tout d'études. Hein.
Mais un bricolage pour quel
non, résultat? Bon, un bricolage parce que maintenant, il va falloir que tout le monde s'y mette, qu'on s'applique, qu'on essaie de bien faire. Et je suis sûr et certain, les anciens que nous avons, s'ils s'y mettent, nos enfants ne seront pas un bricolage gratuit.
Mais est-ce qu'ils pourront épuiser l'année scolaire?
Mais même en temps normal, ils n'ont jamais pu finir l'année scolaire comme il faut. Ils ont toujours été en grève. Bon, c'est le moment de le dire parce qu'en fait, ça ne sert à rien du tout.
Les enseignants ont toujours été en grève.
Toujours été en grève. Soit c'est les enseignants, soit ce sont les élèves eux-mêmes. Mais nous espérons quand même que cette année a été vraiment très dure et laborieuse pour nos enfants parce qu'ils ont passé toute l'année pratiquement dans la rue. Et maintenant, il va falloir s'y mettre. Et comme le département regroupe également de techniciens vraiment d'assez haut niveau, je pense qu'ils auront la pédagogie, la méthodologie pour pouvoir enseigner quand même, pour pouvoir donner quelque chose de valable à nos enfants.
Mohamed Agacharom, il y a certains qui pensent qu'il fallait laisser cette année écouler, une année blanche par exemple, et réfléchir sur de nouvelles mesures pour remettre sur le bon chemin l'école malienne.
Oui, j'ai lu toutes ces propositions-là. D'un côté, on peut dire que c'est légitime ce qu'ils disent. Parce que vous voyez un peu le contexte de notre pays. Aujourd'hui, juste avec la pluie qui s'est passée la semaine dernière, il y a beaucoup d'écoles qui sont déjà occupées par les sinistrés de ces inondations.
Des inondations,
ouais.
Et les pluies qui vont venir aussi vont créer d'autres sinistrés qui vont encore occuper l'espace scolaire. Donc, c'est-à-dire que dans quelques semaines, les écoles ne seront même plus disponibles pour les élèves pour bien aller faire cours. Sans compter que dans la plupart des écoles, en période de pluie, les écoles deviennent des marigots. Donc, il est même difficile d'aller dans les écoles pour prendre des cours. Ça, c'est juste dans le contexte de Bamako et de quelques régions. Il y a des zones où, pendant l'année, l'hivernage, il est impossible même d'aller à l'école. Donc, ça va. Si même l'État décide de prolonger, par exemple, qu'on dise d'écourter les vacances, pour qu'on puisse rattraper les mois perdus, on va rentrer en plein hivernage. Et ça, ce n'est pas possible. Les enfants vont aller au champ cultivé. C'est pour ça que je dis qu'on va essayer de badigeonner, dire que oui, on a sauvé l'année, reprendre les cours pendant 2 ou 3 semaines. On va juste faire des examens à partir du petit qui a été fait, du petit qui a été fait dans les programmes. Mais en réalité, on ne va pas faire le reste du programme. Et les gens vont passer comme ça en classe supérieure avec les niveaux inférieurs.
D'accord. Certains Bamakois ont réagi sur la question. On va les écouter tout de suite.
Il doit faire les bacs. Il va apprendre quoi pour faire des examens et passer à l'école supérieure? Bon, c'est pour former des ignorants qui vont venir diriger ces pays-là dans quelques années.
Je pense que c'est bien que les petits partent à l'école. Enfin.
Si les enfants reprennent la route de l'école, c'est bien parce qu'ils ont longtemps duré à la maison. Nous, on souhaitait qu'il y ait reprise il y a longtemps, mais cette fois-ci, on souhaite que l'année soit sauvée. C'est notre vœu.
Parce qu'actuellement, personne ne travaille pas pour le pays. On travaille pour nous-mêmes.
Si la reprise est demain, vraiment, ça me fait beaucoup plaisir.
Bon, vu le retard, vu aussi que vraiment les enfants n'ont pas étudié. Donc l'école est presque finie. Donc moi, je crois que vraiment une année facultative est plus nécessaire maintenant.
Oui, la cité, qu'on le fait.
Ceux qui sont à la tête du syndicat des enseignants, je jure qu'ils n'aiment pas le bonheur des enseignants. Le syndicalisme, ce n'est pas comme ça. Normalement, tu négocies et prendre la proposition disponible.
Et la lutte continue. Alors, vous êtes interpellé que les responsables syndicaux ne sont pas pour le bonheur des enseignants eux-mêmes.
En fait, avant de réagir à ça, je voudrais dire quand même que le fait que les programmes ne sont pas épuisés, les gens l'ont évoqué par-ci, par-là, et on veut l'imputer au fait que les syndicats d'enseignants sont en grève. Vous savez, je prends le cas spécifique de l'enseignement secondaire, et le système d'enseignement qui est appelé l'APC ne permet pas aujourd'hui, même en temps normal, sans grève, d'épuiser le programme. Ça, c'est vérifiable. On a un système, ce qu'on appelle l'approche par compétence. Aujourd'hui, même en temps normal, sans grève, on ne peut pas épuiser le programme. Parce qu'on a réduit les horaires, mais on n'a pas touché au programme. Donc c'est vraiment un facteur aussi qu'on doit prendre en compte dans le fait que les programmes ne sont pas épuisés. Maintenant, dire que...
Restons toujours sur ce facteur. Mais pourquoi ce facteur ne figurait pas dans vos recommandations?
Vous savez, l'année dernière, si vous avez suivi le mouvement de grève de 2016, parce que c'est 2016 que c'est les syndicats ont donné la main, on a comme point de revendication et la formation des enseignants, la construction d'écoles publiques et la réintroduction du CP au niveau de l'enseignement fondamental. C'est l'année dernière, nos revendications étaient spécifiquement portées sur la qualité de l'enseignement au Mali. On a eu des accords, ce n'est pas appliqué. C'est pas appliqué. Le gouvernement s'était engagé à faire un cadre de concertation pour voir comment est-ce qu'il faut réintroduire le CP. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle pas. Par rapport à l'APC, jusqu'à aujourd'hui, le département de l'éducation ne peut pas vous dire « voici le guide ». N'est-ce pas? Par rapport à la littérature, moi j'enseigne la littérature au lycée, voici le guide par rapport à la PC. Il n'y en a pas. Donc, on a, c'est des questions que nous avons posées sur la table. Maintenant, il y a eu des accords, les accords ne sont pas appliqués, c'est ça. Donc, forcément, il faut dire que les syndicats d'enseignants, nous prenons la mesure holistique des systèmes éducatifs. Nous savons que même si on nous donne de l'argent, si les conditions de travail ne sont pas là, on ne peut pas donner les produits escomptés qu'attendent les peuples maliens. Et maintenant, les syndicats d'enseignants...
Ce sujet est très intéressant. Oui. Je vais revenir sur les représentants des syndicats. Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les syndicats, les enseignants eux-mêmes revendiquent une bonne qualité d'enseignement pour le Mali?
Bon, c'est justement de quoi, moi, en tant que parent d'élève, je me plains. Je l'ai toujours dit que si les syndicats s'étaient plaints qu'il n'y avait pas le niveau académique nécessaire, tout le monde les comprendrait. Mais au grand désarroi de tout le monde, nous avons compris maintenant qu'en fait, certains d'entre eux ne veulent que des satisfactions fiduciaires, avoir seulement de l'argent, et c'est vraiment malheureux. Et je crois que vraiment, dorénavant, il va falloir qu'ils s'y mettent eux-mêmes d'abord. Ce qu'ils réclament là, c'est tout à fait normal, aussi bien que leurs intérêts financiers, mais les intérêts académiques encore sont encore plus meilleurs. Et je crois que désormais, il va falloir vraiment axer nos actions par rapport à ça.
D'accord. Mohamed Agacharouam, la revendication d'un salaire, c'est un droit, mais la justification de ce salaire, n'est-ce pas également un devoir?
Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai discuté avec plusieurs personnes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec les enseignants qui doivent mériter un niveau de rémunération. Et je vais jusqu'à souvent des gens disent que pour moi, l'enseignant et les médecins doivent être des personnes les mieux payées dans un système qui se respecte.
Ouais.
Mais aujourd'hui, les enseignants, les gens ne les considèrent même pas quand vous dites que vous êtes enseignant, vous êtes assimilé à un misérable. Un enseignant, c'est quelqu'un qui va s'occuper de nos enfants chaque matin pendant que nous, on va travailler. Et si lui, il n'a pas pris son petit déjeuner le matin avant de venir, s'il n'a des problèmes de payer sa maison avant de venir, si sa femme est malade, il ne peut même pas la soigner. Comment cette personne peut avoir un esprit tranquille et aller encadrer vraiment des enfants? Donc, au-delà de ça, pour moi, c'est clair, la revendication est juste. Maintenant, l'argument de l'État, c'est qu'il n'y a pas de moyens. Enfin, je suis d'accord qu'il n'y a pas de moyens, mais on ne peut pas dire aux enseignants qu'il n'y a pas de moyens pendant que nos responsables, les directeurs, les ministres vivent une vie d'opulence à extrême, à outrance. Ça choque. Quand le pays n'a pas de moyens, il doit ne pas avoir de moyens pour tout le monde. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, les gens savent tout. Les gens savent tout. Tous les enseignants savent comment est-ce que mangent les ministres, comment est-ce que mangent les directeurs, combien ils gaspillent juste pour une sortie dans un restaurant. Ça vaut le salaire d'un enseignant pendant 6 mois. On ne peut pas continuer à. Aujourd'hui, les gens ne sont plus entre griffes dans l'obscurité. Les gens savent tout. Mais au-delà de ça, je suis d'accord que oui, ils doivent tenir compte de certains paramètres et mettre un peu de l'eau dans l'air l'air. Donc la revendication pour moi, elle est claire. Il y a une revendication, par exemple, quand je vis dans les briques, par exemple, la prime de documentation, j'ai demandé à quelqu'un, est-ce qu'elle est mensuelle ou annuelle, on me dit qu'elle est annuelle. C'est que je n'ai pas trop compris ce que ça veut dire, cette prime de documentation. Chaque année, on vous donne ces montants pour aller payer quoi? Des livres? Je n'ai pas très bien compris. Donc dans les revendications, je ne vois rien qui concerne, par exemple, l'infrastructure, l'amélioration des programmes. C'est des revendications qui touchent directement à la poche de l'enseignant. C'est ça qu'il y a ici. Et c'est parce que les gens sont à un niveau primaire des besoins. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas penser à un niveau d'amélioration. Tout ce que vous demandez à l'enseignant ou au syndicaliste de demander, ils ne peuvent pas demander ça pour l'instant, puisqu'ils sont au niveau basique. Ils sont à un niveau de survie. Quand ce niveau sera atteint, ils vont penser aux autres choses, avoir des meilleures classes, avoir des bibliothèques, avoir des ordinateurs, avoir un programme bien élaboré. En fait, ça, on est en stade de survie en ce moment. Je ne défends pas les enseignants, mais c'est un peu ça la réalité.
D'accord. Ousmane, vous êtes d'accord que vous êtes également responsable du niveau des élèves maliens aujourd'hui?
Bon, c'est une responsabilité partagée. Chacun
mais vous êtes quand même les premiers responsables, parce que c'est vous qui êtes censé leur transmettre la connaissance.
Non, nous ne sommes pas les premiers responsables. Je disais que c'est une responsabilité partagée. Mm-hmm. Nous avons notre part de responsabilité là-dedans et on va assumer ce qui nous concerne, notre part de responsabilité. Mm-hmm. Mais les droits de l'éducation, c'est à l'État d'avoir de donner cette éducation aux enfants du Mali. Mm-hmm. Maintenant, notre responsabilité, même pour nous aussi, quand vous prenez les niveaux de l'enseignant. L'enseignant est formé aussi par un enseignant. Oui. C'est ça. Ça, c'est dans les écoles de formation. Donc, le système qui est enseigné, qui est utilisé dans les écoles de formation, et quand l'enseignant finit sa formation et qu'il se retrouve sur le terrain, il y a une incohérence totale entre ce qu'on apprend dans les écoles de formation, la formation initiale, et ce qu'on applique sur le terrain. Ça, c'est pas l'enseignant. Moi, je suis sortant de l'IFM de Kangaba en 2005. Mais quand on m'a mis sur le terrain, moi, on m'a mis dans une école, à Dusujana pour le stage, dans une école où on enseigne la PC. Un soirée qui a fait tout son enseignement en français, vous l'amenez dans une école où on enseigne les Bamanaga, surtout le Wassoulou. Vous pensez que ça, c'est l'enseignant? Vous pensez que si je n'arrive pas à donner le meilleur de moi-même dans ce système-là, c'est de ma faute? Non. Ça, c'est le système qui revient à l'État. Et à l'État de former les enseignants dans le système qu'il est appliqué dans les établissements d'enseignement. Donc, à partir de là, maintenant, le niveau de l'enseignant, effectivement, l'enseignant doit se former. Ça, on ne manque pas de le dire à nos militants chaque fois qu'on est en assemblée générale, chaque fois qu'on est en meeting, la formation dans les IFM, dans les écoles de formation, c'est une étape. Le reste, c'est un processus que chacun doit. Et c'est ce qui nous a poussé cette année à demander la preuve de documentation pour inciter nos collègues vraiment à aller acheter des documents, lire. On reconnaît ça, que la formation, elle est continuelle et que l'enseignant, c'est celui-là qui est en perpétuel apprentissage. Et là, on le fera. Mais la responsabilité, la première, ce n'est pas nous.
Est-ce que les parents d'élèves jouent le rôle?
Moi, j'aimerais vraiment réagir là.
Vous aurez la parole.
Non, les parents d'élèves. Le doyen Sissoko est là, il nous accompagne durant tout le processus de négociation. Mais quand vous regardez la crise, à vrai dire, on n'a pas senti les parents d'élèves. On n'a pas senti les parents, c'est-à-dire les parents d'élèves de façon formelle, la Fédération nationale des parents d'élèves, mais on aurait souhaité sentir dans la population.
Pas dans la grille, mais concernant le niveau des élèves de façon globale, est-ce que les parents...
Non, de façon globale, les parents d'élèves ne s'intéressent pas. Moi, j'ai fait 7 ans à l'enseignement fondamental, rarement, avant d'aller au lycée, rarement sont les parents d'élèves qui viennent chercher à venir à savoir quel est le niveau de leurs élèves, consulter le bulletin, venir interroger le maître, quel est le comportement de mon élève dans la classe. Rarement, moi, j'ai vu des parents d'élèves venir le faire. Et ça aussi, ça dépend. C'est le rôle des parents d'élèves de venir s'enquérir de la réalité des enfants à l'école auprès des maîtres. Et puis encore, même surveiller les cahiers des élèves à la maison. S'il y a des incorrections, moi, j'ai vu un parent d'élève qui est venu interroger un de mes collègues à l'école parce qu'il a vu des choses dans les cahiers qui n'a pas plu et il est venu. Il avait raison. Parce que ce que le maître avait écrit, c'était pas ça. Donc ça, c'est si l'enfant sait que à la maison et à l'école, il le suit, forcément, l'enfant va se mettre.
Bon, moi, je voudrais réagir par rapport à cela. Je crois que cette histoire-là, c'est la faute de tout le monde. Mais je préfère vraiment... Je voudrais également éclaircir un point. Quand on dit que c'est la Fédération nationale des parents d'élèves n'a rien fait, je pense que vraiment, on est passé à côté de la plaque. Et je crois que... Je vous ai toujours dit, c'est que même la Fédération nationale des parents d'élèves a un problème avec l'État, parce que notre bureau fédéral est reconnu pendant que la base, pratiquement, on ne fait rien pour nous là-bas. Et nous, on n'arrive même pas à tenir un congrès pour au moins mettre nos structures en place, qu'à cela ne tienne. Cette histoire de grève nous a donné une très bonne leçon. Nous avons tiré une très bonne leçon de cela. Mais le niveau, quant au niveau de l'école, qu'est-ce qui a fait baisser le niveau de l'école? C'est en fait dû au fait qu'à un moment donné, à partir de 2000 jusqu'à 2009, on a laissé le choix, le recrutement des enseignants aux politiques, sinon aux mairies quand même, avec les politiques. Et chacun, n'importe qui est venu dans l'enseignement. Et Al-Moudoui est d'accord avec moi qu'un enseignant, c'est pas donné à tout le monde. On ne peut pas être enseignant qui le veut. Alors, nous avons recruté des enseignants n'importe comment. Nous avons recruté nos enfants, nous avons recruté nos frères, nos amis, nos électeurs, pour venir à l'école, en fait, sans diplôme. Il y en a qui sont même venus, qui n'avaient même pas le CP. Il y en a qui sont venus, qui n'avaient fait les ABCDR de l'école et puis qui se sont retrouvés comme enseignants. Moi, je l'ai dit à son temps, je l'ai décrié. Maintenant, quand on en veut aux parents d'élèves, c'est trop. Je l'ai dit devant l'Assemblée nationale. Cette histoire de le recrutement des enseignants, le niveau de l'enseignement maintenant, c'est vous qui avez relaté cela. Parce que le Mali a été un pays réservoir d'enseignants pour les pays, pour certains pays d'Afrique ici. Tout le monde le sait. La Côte d'Ivoire, je l'ai toujours dit ici, a recruté ses enseignants ici. Le Gabon a recruté des enseignants au Mali ici. Mais pourquoi aujourd'hui, nous, on n'arrive pas à avoir des élèves de bonne qualité? Parce qu'en réalité, on a perdu n'importe quoi, on a mis du n'importe quoi dans l'enseignement. Qui sont plutôt axés sur la revendication fiduciaire, avoir de l'argent, parce que eux, ils sont venus. Parce que pour eux-mêmes, l'enseignant est quelqu'un qui est détesté de tout le monde. Ce n'est pas vrai. Moi, j'appelle ça de l'ostracisme. Je l'ai toujours dit avec les enseignants. Ne vous assignez pas forcément un ostracisme qui n'est pas le vôtre. Un enseignant, quand on dit qu'il est mal aimé, ce n'est pas vrai. Quand on dit qu'il n'est pas respecté, ce n'est pas vrai. L'enseignant a toujours été respecté, respectable et respectueux chez nous ici. Et moi, je n'ai pas vu dans ce pays-là quelqu'un qui a dirigé ce pays-là s'il n'est pas passé par l'enseignement. Même Moussa Traoré était instructeur militaire. Qu'on ne nous fasse pas croire aujourd'hui que parce que les enseignants sont honnis par la population, parce que souvent ils s'arrogent, qu'on n'arrive même pas à trouver une femme, ou pas, on dit que c'est un enseignant. Ce n'est pas vrai. Moi, je te jure, quand j'étais dans la salle l'autre jour au niveau de la primature, Salikou Sanogo, l'ancien ministre de l'Éducation, est venu. Il a dit, je dois aller donner d'abord bonjour à mon maître, le vieux Madlamine Diara. L'enseignant, ça a toujours été ça. Ça, quand vous allez en ville et que quand vous allez au niveau des rencontres, que les gens viennent à vous, des ministres viennent à vous, des responsables viennent à vous pour vous dire « Ah, monsieur, je crois qu'il n'y a pas plus honorable que ça. » Bon, maintenant, maintenant, nous ne sommes pas de la même ère, parce que les enfants de maintenant, c'est l'argent qu'il leur faut, parce qu'ils veulent voir l'autre dans une Mercedes et eux aussi aller dans une Mercedes, ou bien ceci, cela. Ils veulent... La preuve est que Al-Mour vient de le dire, c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça, maintenant, ils croient qu'eux, ils n'ont droit à rien. Ils croient que l'État ne leur réserve pas de... Parce qu'ils l'ont toujours dit tout au long de la négociation, que l'État a manqué ceci. Non, il faut que l'enseignant se dise une chose. Lui, il est un modèle, c'est lui qui doit modeler la population. C'est lui qui doit usiner la population. Pour qu'il y ait une population de bonne qualité, il faut qu'il y ait un enseignement de bonne qualité. Voilà.
D'accord. Mohamed Aga Acharom, quelqu'un s'est inquiété tout de suite par rapport au niveau avec lequel les élèves vont partir, notamment en classe d'examen. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Est-ce que les examens vont être bâclés ou est-ce qu'on va juste permettre à des élèves d'aller pour après certains redoubler des classes?
Ça va être un jeu de domino. Mais avant d'y arriver, je vais juste répondre sur ce que mon père disait tout de suite par rapport au reste des enseignants. Je suis tout à fait d'accord, oui. Dans nos villages et tout ça, là, quand quelqu'un est enseignant, oui, tout le monde les respecte. Mais il y a des contextes qui sont complètement différents. On ne peut pas comparer un enseignant qui vit dans une localité où il ne paye ni bois, ni eau, ni autre chose, à quelqu'un qui vient beaucoup. Il a des factures à payer et les respects ne payent pas les factures. On peut bien lui dire, ah oui, c'est toi qui m'as enseigné. Il peut avoir des élèves qui sont devenus ministres, directeurs, oui, il les rencontre, bonjour, professeur et tout ça. Mais à la fin du mois, il doit payer des factures. Donc, c'est fini, on continue. Par rapport au niveau des secrets, c'est un jury dominant. Les syndicalistes disaient tout de suite qu'ils n'ont jamais fini les programmes dans tous les cas. Oui, en temps normal, vous ne finissez pas les programmes, mais vous faites peut-être 70% du programme ou 60% du programme. C'est déjà quelque chose. Mais cette fois-ci, le temps est anormal. Vous n'allez même pas faire 20% du programme. Donc 60% et 20%, ce n'est pas du tout la même chose. Donc on va faire des examens sur une leçon. Oui, les enfants vont répondre, ils auront des très bien sur une seule leçon, c'est une leçon qu'ils ont vue, ils vont passer avec des mentions. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. C'est une coque vide. C'est ça le drame. Donc, les examens vont subir la conséquence de tout ce qui s'est passé au cours de l'année. Les cours qui n'ont pas été suivis correctement, il y a beaucoup de mois de grève, et le truc qu'on va essayer de faire tout de suite dans cette période d'hivernage, ça va être quelques cours escamotés par-ci par-là, et des examens dans des situations plus dures, etc. On va s'y dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. L'État, pour eux, il faut qu'il y ait une année normale entre grises, c'est-à-dire sauver l'année. Et les syndicats, ils voulaient avoir une amélioration de leurs conditions et ils ont eu ce qu'ils ont eu. Avant que je n'oublie, puisque j'avais noté ça, on ne va pas parler du niveau des enseignants tout de suite. Il y a un point qui est une revendication, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. L'intégration des corps des enseignants, des personnes non enseignantes et qui sont en classe. ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on peut mettre une revendication pareille? Quelqu'un qui n'est pas enseignant parce qu'il enseigne par défaut, on demande à ce qu'il soit intégré dans l'enseignement et c'est les enseignants qui demandent ça.
Qu'avez-vous à répondre à cette
question? En fait, moi, je voudrais faire deux précisions quand même. Mm. La première, c'est que je n'ai pas dit que la Fédération nationale n'a rien fait. Mm. J'ai dit que vous prenez les parents d'élèves de façon générale dans la population. Sinon, la Fédération, en tant que structure organisée, on sait ce que la Fédération a de faire auprès du département, auprès des syndicats pour qu'on puisse sortir de cette situation. Donc, ce sont, ça y parle de la Fédération en tant que telle, mais ça y est des parents d'élèves qu'on prend, des parents d'élèves tout court, y compris nous. Mm. La deuxième, c'est que par rapport à quand je disais que les programmes, même en temps normal, on ne les achève pas, ils vont. Donc, si on pose l'interrogation, c'est pourquoi nous avons demandé à ce qu'on revienne sur la formation en APC. On a posé l'interrogation et jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est lorsque on va revenir sur ça et que les enseignants sont formés, c'est en ce moment qu'on peut, en fonction de l'emploi du temps, en fonction des leçons, on peut adapter l'emploi du temps pour que les gens puissent exécuter normalement les programmes en temps normal. Maintenant, quand l'expert parle de que les syndicats s'interrogent, hein, je pense qu'il est même indigné du fait que les syndicats d'éducation demandent l'intégration des enseignants. Vous savez, ce n'est pas les enseignants qui les ont amenés dans le système éducatif. Vous prenez aujourd'hui l'enseignement technique professionnel, les lycées techniques. Il y a des matières qui sont enseignées par des gens. Si on les enlève aujourd'hui, on va fermer ces lycées-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une école qui forme des enseignants dans ces disciplines-là. Et pourtant, on les enseigne dans les écoles. Quand ce sont des gens qui sont recrutés, ce sont des fonctionnaires. Quand on les envoie et dans les établissements, dans les académies ne voyant pas leur nécessité, les envoient dans les établissements. Maintenant, arrivés dans les établissements, ils voient une discipline qui est là, qui relève de leurs compétences, ils pensent pouvoir l'enseigner. Et c'est des gens qui sont là-dedans 10 ans, 15 ans, ils ont eu l'habitude, et puis encore, ils se sont aguerris là-dedans. Aujourd'hui, ils se sont organisés. Où on les amène dans l'enseignement, ils vont quitter pour aller retourner dans leur corps d'origine. Et on sait aujourd'hui, s'ils quittent leur corps d'origine, il y a beaucoup d'enseignements techniques et professionnels qui seront fermés. Nous avons dit à l'État. Et ça, l'État est d'accord. Je pense que c'est la seule question, la seule revendication sur laquelle nous sommes tombés d'accord avec le gouvernement depuis les premières négociations.
Ça va avoir un impact sur l'effectif. Mais est-ce que ça aura un impact sur la qualité de l'enseignement?
Forcément, parce qu'ils sont déjà dedans. C'est des gens qui enseignent déjà ces disciplines-là. Mm-hmm. Ce n'est pas de nouvelles personnes qu'on amène pour intégrer. Hein. Ils sont déjà là-dedans. Certains sont là-dedans de 10 ans, 15 ans, etc. etc. Voilà. Et même au niveau de l'enseignement fondamental, les professeurs DPS, par exemple, vous prenez, ils sont recrutés par la fonction publique. Ils les envoient dans les académies. L'académie n'a rien à faire avec un professeur DPS. Le professeur de l'académie fait une note de service, l'envoie dans un lycée. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il va enseigner. C'est un enseignant, mais il ne bénéficie d'aucun avantage lié à l'enseignement. C'est tout ce que nous, on a demandé. Il ne s'agit pas de gens qui sont venus de nulle part qu'on demande d'intégrer. Mais ce sont des fonctionnaires qui sont admis à la fonction publique par concours. Voilà. On peut reconnaître qu'il faut, pour enseigner quand même, il faut avoir la formation pédagogique. Ça, on est d'accord. Et je pense que dès qu'ils seront intégrés officiellement, ça, l'État dépend des dispositions pour leur donner le minimum de formation pour qu'ils puissent arriver. De tout simplement dire que l'expert a parlé de quelque chose et le doyen en a parlé. Je dis que on modèle une personne lorsque toi-même tu es en sécurité de façon psychologique, de façon financière. Et l'enseignant aujourd'hui, les contextes ne sont pas les mêmes. On est d'accord avec le doyen quand il parle des années antérieures, etc. On est d'accord. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau contexte et nous sommes avec de nouvelles réalités qui font que l'enseignant n'est pas différencié des autres éléments, des autres membres de la société. L'enseignant paye son électricité, l'enseignant paye sa location, etc., etc., comme tout le monde. Donc, on ne peut pas demander à l'enseignant seulement de se contenter, de se résigner, le fait que pendant les grandes cérémonies, on vient te dire bonjour, monsieur. Ça ne nourrit pas. À un moment donné, il faudrait que nous le disions. Et ce qui a amené, et mon père est d'accord avec moi, Sissoko, que pendant les négociations, ce qui a surtout radicalisé les positions, c'est que le gouvernement nous a tout le temps dit qu'on n'a pas droit à ça. Vous n'avez pas droit à ça, vous êtes nombreux, etc. Vous pensez que c'est quand vous, des syndicats d'enseignants qui font des revendications et le gouvernement, les partenaires en face, au lieu de chercher des solutions, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est de vous dire que vous n'avez pas droit, c'est de dire que vous êtes nombreux.
Non.
Ça. C'est ce qui fait que les positions sont, au fur et à mesure des négociations, les positions sont radicalisées. Voilà.
D'accord, nous parlons de la fin de la grève des enseignants. Quelle suite pour l'année scolaire? Et je rappelle que nos tentatives pour compter un représentant du ministère de l'Éducation sur ce plateau sont restées vaines. Alors, Monsieur Almoudou, je reviens à vous. La grève est finie aujourd'hui. Avec l'État malien, qu'est-ce qui a été convenu pour la suite? Est-ce que l'année scolaire va être prolongée?
Bon, en fait, on n'a pas eu de rencontre officielle avec le département par rapport à ça. Parce que pendant les négociations, le jour de la signature de l'accord, le ministre nous a dit que ensemble, nous allons trouver de commun accord. Nous allons voir ensemble ce qu'il y a lieu de faire pour sauver l'année. En tout cas, jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous, on n'a pas été conviés par rapport à une telle rencontre. Donc, lorsque nous serons conviés, nous allons donner notre position par rapport à ce que... En tout cas, nous sommes des serviteurs de l'État. Nous sommes des fonctionnaires. Donc, un fonctionnaire, on a droit qu'à un mois de congé. Donc, le reste, c'est l'année à l'État, au gouvernement, d'aménager son emploi, etc. Pourvu que ce que le programme tracé puisse être au bénéfice des enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous devons tous travailler à ce que les enfants qui ont été longtemps, hein, les oubliés de cette histoire, puissent vraiment retrouver leurs droits.
Mais déjà, qu'est-ce que vous proposez comme solution?
Non, bon, comme solution, nous, de toute façon, la solution, la seule qui vaille aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'il faut jouer sur le temps.
Oui.
Parce qu'il serait difficile, il serait difficile aujourd'hui de dire qu'on est rentré, il faut aller aux examens. Non. Forcément, il faut jouer sur le temps. Jouer sur le temps, ça veut dire qu'il faut décaler les dates des examens. Jouer sur le temps, ça veut dire qu'il faut prolonger un peu la durée de l'année scolaire. Ça va revenir certainement, c'est que l'espérant dit, nous sommes en période d'hivernage. Oui. Nous savons qu'il y a des zones au Mali où en période d'hivernage, il y a difficilement. Vous savez, ça serait très compliqué. Très compliqué, mais la seule alternative aujourd'hui, c'est de jouer sur le temps.
La difficulté n'est pas seulement l'hivernage, l'accès difficile des écoles, c'est également les mains d'œuvre. Parce que ce sont ces élèves qui vont au champ pour aller cultiver aussi.
Oui. Ça, ouais. Je suis mieux placé pour vous dire ça. Parce que quand j'étais dans mon confin à Tombouctou, voilà, à un certain moment de l'année scolaire, on vient nous soustraire de l'école, on va au champ. Je pense que ça continue aujourd'hui. C'est des difficultés réelles, mais je pense qu'il y a une forte communication qui doit accompagner ça. Je pense que dès lors que une opposition sera arrêtée de commun accord avec les partenaires, il faut faire une communication pour expliquer ça aux parents d'élèves. Ouais. Je sais que ça sera difficile, mais s'il y a une communication responsable qui accompagne ça, les parents d'élèves vont comprendre que c'est un sacrifice que chacun doit consentir pour que les enfants puissent avoir le minimum de cours nécessaires.
D'accord. Du coup, Madi Sissoko, le prolongement de l'année scolaire, est-ce une bonne solution?
Bon, ce n'est pas parce que c'est une bonne solution, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution, en fait. Parce que quand vous regardez, qu'est-ce qui nous a amené à tout ça? C'est parce que les uns et les autres n'ont pas voulu se comprendre depuis le départ.
Oui, mais en tant que parents d'élèves, est-ce que vous pensez aux autres parents d'élèves, par exemple, qui sont au niveau rural, qui n'ont pas d'autres sources de revenus que l'agriculture?
Nos pensées vont à tous.
C'est parce que comment eux, ils vont faire quand ils n'ont
mais
pas
vraiment, ça, je ne peux pas, je n'ai pas une solution miracle, je ne peux pas te dire les oracles, encore moins te consulter une boule de cristal pour ça. Je te dis seulement que, bon, vraiment, ça va être difficile. Ça va être difficile. Comment? C'est l'histoire qui a fait que, bon, vraiment, nous nous sommes retrouvés dans cette situation-là. C'est pour ça que je l'ai toujours dit aux enseignants, c'est quand nous étions chez vous ici, pendant nous avons passé combien de fois ici chez vous, ça fait très beaucoup de fois. Je leur ai toujours dit, attention, la cible que vous visez finira par être l'avenir de nos enfants. Et voilà, nous sommes tombés maintenant d'accord après sept préavis de grève, après 5 mois de discussion. Ce n'est que maintenant que nous avons pu voir le bout du tunnel. Parce que les uns et les autres ne sont pas impliqués politiquement là-dedans. Et puis moi, je l'ai toujours dit, même si je le félicite d'abord le Premier ministre parce qu'il a eu la bonne idée de ne pas faire ce que d'autres, certains lui proposaient, à savoir que l'État prenne ses responsabilités, que l'État s'assume. Non, l'État ne pouvait pas s'assumer comme ça. Il fallait trouver maintenant une solution pour au moins donner quelque chose à ces enseignants-là. On l'a toujours dit depuis le départ. Tout le monde s'est impliqué dans cette histoire-là. Les familles fondatrices, Sempara, la FNAPEM, les parents et puis même les centrales se sont impliqués finalement. Parce que tous ceux-ci ne s'étaient pas impliqués comme il fallait au départ.
D'accord. Mohamed Agacharom, l'État a sauvé l'année scolaire, c'est ce qui est dit. Les enseignants ont 9 sur 10 de leurs revendications. Alors qui sort perdant aujourd'hui? Les élèves? Les parents d'élèves?
Mali.
Naturellement, c'est tous les Maliens, puisque ces enfants-là, ce seront des enfants, des adultes maliens, c'est eux qui vont diriger ces pays-là plus tard. C'est eux qui sont perdants de cette complicité ou bien de cette passivité de l'État. Moi, je ne peux pas comprendre que ça fait 5 mois qu'on tergiverse, on dit qu'il n'y a pas d'argent, et soudain, il y a l'argent. Qu'est-ce qui a changé dans la situation du pays par rapport au début de la grève ou aujourd'hui? Au début, on nous disait qu'il n'y a rien, qu'il est impossible de satisfaire ça.
Était-ce une manque de volonté? Un manque de volonté?
Naturellement, c'est un manque de volonté. Est-ce que le Mali a changé? Est-ce qu'on a découvert une mine de diamants quelque part qui va renflouer les caisses de l'État? Au début de la grève, on avait combien de ministres? Maintenant, on a combien de ministres? On a même plus d'effectifs de ministres maintenant qu'avant. Ça veut dire que l'État a plus de charges aujourd'hui qu'au début de la grève. Pourquoi on n'a pas résolu ce problème s'il y avait déjà la possibilité? On savait que c'était possible de résoudre. Ou bien, si ce n'était pas possible de résoudre ça, ça veut dire que cette promesse est un leurre. Ça veut dire que ça ne va pas marcher, ils ne vont pas l'appliquer et il y aura une grève encore.
Certains pensent que, certains observateurs pensent que c'est politique, c'est un moyen pour l'État de faire oublier les autres choses et de se concentrer sur un nouveau problème.
Oui, c'est ça. Et après ça, après quelques mois, ça ne va pas, les points ne vont pas être satisfaits et il y aura une autre grève. Et la plupart du temps, souvent, les grèves sont dues à des accords, à des engagements qui ne sont pas respectés. C'est là vraiment que j'accuse vraiment l'État, malgré les problèmes qu'on fait que le pays a des difficultés, mais il faut vraiment que l'État s'assume. Quand vous prenez un engagement, il faut vraiment le venir à terme.
Alors, vous l'aviez évoqué, les agriculteurs aujourd'hui qui vont retrouver leur main-d'œuvre, notamment à l'école, les élèves, aujourd'hui, quelle alternative pour ces agriculteurs, éleveurs et autres?
C'est pour cela que j'ai dit que ça va être vraiment des véritables bricolages. Il y aura beaucoup d'absents. Peut-être que ce seront des enfants, peut-être qui ne sont pas en classe d'examen. Mais non, bientôt, dans la région de Ticasso, déjà les pluies ont commencé, les gens sont déjà au champ. Et au fur et à mesure, les pluies vont prendre le reste du pays. Au-delà du fait que les élèves vont aller dans les champs et travailler, il y a le fait que les écoles ne seront plus accessibles. Quels sont les moyens qui sont prévus par l'État pour faire traverser les pirogues, les rivières aux, oui, aux enfants? Ici, à Bamako, les écoles vont se transformer en marigots. Il faut des bateaux pour aller d'une classe à une autre. Quelles sont les solutions qui sont prises? Sans compter qu'il y a les inondations qui vont créer des sinistrés, et ces sinistrés sont généralement accueillis par les écoles. Comment est-ce qu'ils vont jongler dans tout ça? Ça va être un véritable bricolage. Je ne suis pas très, très optimiste par rapport à ce qui va se passer après. On va essayer de faire des gros discours, on va tout faire pour sauver, mais dans la réalité des faits, ça va être extrêmement difficile.
On parle d'une école sauvée. Êtes-vous optimiste quant à la traduction de ces mots en actes?
Bon, ce que l'espère vient de dire, c'est une réalité. Vous savez, c'est...
Donc vous êtes aussi pessimiste?
Bon... En tout cas, pas totalement optimiste, parce que c'est, là, vraiment, ce qu'ils viennent de décrire...
Ça devient compliqué dans ce cas, si les enseignants eux-mêmes aussi
sont... Non, ça, c'est pas... C'est le fait que ça soit compliqué, ce n'est pas les enseignants. Les enseignants sont disponibles. Maintenant, les réalités qu'ils viennent de décrire, c'est des réalités, c'est palpable, c'est une réalité, c'est l'ensemble du territoire. Et les gens ont besoin de leurs enfants en termes de main-d'œuvre. Il y a la pluie qui viendra, et puis encore, les sinistres qui vont... Voilà, c'est vraiment compliqué, c'est très compliqué, mais en tout cas, les enseignants, comme je l'ai dit, je le répète encore, et nous sommes des fonctionnaires qui sont au service de l'État. Tant que l'État pense qu'il peut nous utiliser, nous, on est disposés à servir. Maintenant, les réalités locales, en fonction de réalités décrites par-ci, par-là, nous, les enseignants n'ont pas de solution à ça. C'est au gouvernement de trouver des solutions palliées à ça, et pour que les enseignants puissent... enseigner correctement.
Mais votre grève était-elle indispensable pour atteindre, obtenir ces résultats?
Vous savez, si Soko peut en témoigner, on était arrivé à un moment dans la discussion où on avait même renoncé au point à incidence financière. Pourvu que l'État puisse satisfaire deux questions qui n'ont aucune incidence financière. Mais dans la salle de conciliation, aucun représentant du gouvernement n'était en mesure de nous dire on peut faire ça. C'est une réalité. Donc, à un moment donné, les négociations étaient arrivées à un moment où les syndicats n'étaient plus dans la disposition de continuer. Mais lorsque vous êtes en face d'un partenaire qui vous méprise, vous êtes en face d'un partenaire qui... Non, arrêtez, c'est ça les expressions. Vous savez, nous, on ne peut pas donner une autre connotation lorsque un ministre de la République vient dire à des enseignants qu'on ne peut pas vous donner ça parce que vous êtes nombreux. On ne peut pas vous donner ça parce que vous n'avez pas droit. On ne peut pas vous donner ça parce que si on vous donne ça, les autres vont demander. Il n'y a pas une autre connotation à ça qu'un mépris. Et même, pardon. Et c'est ce qui a radicalisé les choses. Le Sissoko ne peut ne pas être d'accord avec moi, oui. Mais il est d'accord qu'on était arrivé à un moment de négociation où on avait dit à la partie gouvernementale, on va renoncer à la prime de logement, qu'on va renoncer au décret 529 lorsque le gouvernement nous a concédé la prime de logement.
Ça, c'est vrai.
C'est la réalité.
Sissoko est moins pessimiste que Ousmane.
Non, je ne suis pas pessimiste parce que je mets tout ça sur le fait de Dieu. Parce que je suis croyant. Mais ce contre lequel je mesure, c'est le fait qu'il est aujourd'hui, il est évoqué que le gouvernement a dit qu'ils sont trop nombreux, c'est trop péjoratif.
Mais ça a été dit.
Non, c'est oui, pas comme ça que ça s'est dit.
Vous avez évoqué quelque chose. Nous sommes tous trop dire... croyants, mais quand vous dites que c'est un fait de Dieu, est-ce que réellement...
Ça nous est arrivé comme ça, si
est-ce
vraiment...
Est-ce qu'on ne l'a pas provoqué aussi?
Mais tout le monde l'a provoqué. Les anciens l'ont provoqué plus que les autres. Le gouvernement, quand on le tient aujourd'hui responsable de pas mal de choses, c'est parce qu'il y a eu des moments où on l'a amené par la peau de fesses à reconnaître, à faire certaines promesses qui n'arrivent pas à tenir.
Est-ce que ces promesses vont être tenues?
Non, cette, attendez, c'est pour ça, pendant ces négociations-là, quand on était avec Mme Rakitala, elle a dit, attention, c'est vrai, on nous a assez menti. Mais Rakitala n'était pas là-bas au début. Elle est ministre depuis quand? Mais elle a dit, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées maintenant. Nous ne voulons plus désormais vous faire des fausses promesses. Vous savez que votre nombre est important. Est-ce que ça c'est péjoratif?
Non, il n'a pas dit important.
Elle a dit que votre nombre est important, pardon.
Nous sommes trop nombreux.
Il nous reste quelques minutes, un dernier mot pour chacun. Aujourd'hui, que faut-il faire?
Touré, j'ai toujours dit que le diable, quand il veut le juger, ses témoins sont en enfer. Et ces jeunes gens-là avaient vraiment des idées préconçues pour faire le procès de l'État. Ce n'est pas bon, en fait. Il y a eu beaucoup de règles qui sont produites pendant un bon bout de temps. Alors, il fallait maintenant leur dire la vérité, leur dire vraiment, aujourd'hui, on peut faire ça, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Il y avait trois priorités que le ministre avait dit à l'époque. Elle a dit, la priorité actuellement du Mali, c'est le salaire. La sécurité d'abord, le salaire et les pensions. Vous allez même voir que vraiment, dans peu de temps, les salaires vont commencer à être en retard. Donc, maintenant, pour le moment, on ne peut pas, mais attendez d'abord, parce que votre nombre est tellement important que si jamais aujourd'hui on arrive à vous faire des promesses, ça va encore faire l'effet de domino et beaucoup d'autres structures vont se plaindre ou bien vont demander.
D'accord. Certains s'inquiètent toujours par rapport à la tenue des promesses faites par l'État. Est-ce que vous êtes sûr que...
Mais je pense quand même que le Premier ministre actuellement là, est intelligent parce qu'il a promis des choses devant tout le monde. Il y avait toute la société, toute la crème de la société malienne, la société civile malienne là-bas.
Mais il était ministre de l'économie avant de devenir ministre.
Voilà, mais maintenant peut-être qu'ils ont fait une dérogation spéciale de 141 millions, je crois.
600.
600 000. Donc moi je crois que vraiment, on va les prendre. C'est pour ça que nous avons dit que désormais que leur combat n'est pas leur combat à eux seuls. Ça va être maintenant le combat de la société civile en synergie avec les syndicats pour pouvoir dire désormais au gouvernement, attention, ne faites pas ça, vous avez promis ça, faites ça.
D'accord, c'est la fin de la grève et vous annoncez une autre si vos attentes ne sont pas satisfaites pour l'année prochaine.
Non, on a dit que le modèle est suspendu. Suspendu, ça veut dire que ça peut venir à tout moment si l'État ne respecte pas les engagements pris. Je voudrais tout simplement dire que de la présence, du moment où Rakitala est ministre et aujourd'hui, il n'y a pas eu de changement en termes d'économie. L'espère vient de le dire, ça, on n'a pas découvert de jugements miniers encore. C'est la même citation qui prévale. Et pourtant, le gouvernement qui est là a donné de l'argent.
D'accord. Donc, il y a une question de volonté politique qui est là. Faut-il un dialogue national pour revoir le système éducatif malien?
Absolument.
Oui, ça seulement nécessaire. Oui, on parle d'éducation. Naturellement, il faut revoir les tout. L'école, dans combien d'établissements on ne commence plus l'année scolaire en septembre pour la finir en juin, comme à notre temps? Il faut complètement une réforme. Il y a eu des assises générales sur l'éducation, il y a eu beaucoup de littérature et de documentation qui sont dans les placards. Le problème de ces pays, c'est qu'on parle beaucoup, on agit très très peu.
D'accord, espérons que cette fois-ci, il y aura beaucoup d'action. Merci Mohamed Ag Acharom, analyste Djogamadi Sissoko de la Fédération des parents d'élèves et Ousmane Almoudou, secrétaire général du Syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités. Ils étaient nos invités sur ce plateau et je vous rappelle que nous avons invité le ministère de l'Éducation nationale, mais ils ne sont pas venus. À la régie vidéo et audio, Mamadou Ouattara et Salim Djouara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Le Grand Dialogue. Yeah.